Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux aliments qu'on connaît bien, le soja et l'avocat. Alors, d'après la source qu'on a examinée, ils ne jouent pas tout à fait dans la même cour, mais ils pourraient être complémentaires. Le soja, il est plutôt présenté comme un allié potentiel pour réduire le risque de cancer du sein, et puis aussi pour aider avec les symptômes de la ménopause. Tandis que l'avocat, lui, serait plus orienté, disons, prévention du cancer de la prostate et santé cardiovasculaire.
C'est exactement ça. On s'appuie aujourd'hui sur des extraits d'un texte, Soja et avocat, vertus anticancéreuses et santé. L'auteur, c'est Jean-Philippe de Toledo, présenté comme président de la Fondation Netcare. Donc, notre objectif, il est clair, on va essayer d'extraire l'essentiel de ce que ce document nous dit sur les propriétés de ces deux aliments. Sans jugement, hein, juste décortiquer l'info.
Parfait. On va donc plonger un peu dans les détails que fournit ce texte. Prévention de certains cancers, donc sein et prostate sont mentionnés noir sur blanc, impact sur la santé cardio, gestion des symptômes de ménopause, et puis un point qui m'a intrigué, l'optimisation de l'absorption des nutriments. C'est un programme assez riche. Alors, peut-être commencer par poser quelques chiffres clés qui sont cités dès le début dans le texte, pour le soja par exemple.
Oui, alors le texte met en avant une étude qui a, semble-t-il, pas mal marqué les esprits. Elle date de 1998. D'après cette référence, la consommation régulière de lait de soja pourrait être liée à une réduction assez spectaculaire de l'ordre de 70% du risque de cancer de la prostate. Bon, c'est un chiffre qui interpelle, c'est sûr, même si l'étude commence à dater un peu.
70%, oui, c'est énorme. Le texte parle aussi, plus brièvement au début, d'autres bénéfices pour le soja. Son rôle possible pour réduire le risque de cancer du sein, et puis une aide face aux désagréments de la ménopause. On parle de bouffées de chaleur, de densité osseuse. Des aspects importants pour la santé des femmes, le texte a l'air d'insister là-dessus.
Tout à fait. Et en parallèle, l'avocat est aussi présenté comme ayant un rôle à jouer pour le cancer de la prostate. Là, le texte cite une autre étude, plus récente, de 2012, paru dans la même revue d'ailleurs. Et cette étude suggérerait une baisse du risque qui atteindrait presque 60% chez les consommateurs d'avocats. Ce n'est pas rien non plus, 60%.
Donc deux aliments, deux études citées dans la même revue qui pointent vers une réduction significative du risque pour le même cancer. Mais avec des chiffres et des aliments différents. C'est intéressant comme point de départ. Et l'avocat, il ne s'arrêterait pas là d'après la source.
Non, effectivement, le texte lui attribue aussi des vertus pour la santé cardiovasculaire et la prévention du diabète. Donc il est vraiment positionné comme un aliment multicasquette, si on veut, avec plusieurs bénéfices potentiels.
Et l'auteur va même jusqu'à suggérer une sorte de partenariat entre les deux. Il lance l'idée de les combiner, mettre du soja dans un guacamole ou manger de l'avocat avec du tofu. L'idée d'une synergie, elle est clairement là.
Oui, c'est une piste intéressante qui est soulevée. Cette suggestion de combinaison, ça invite à réfléchir au-delà des effets isolés de chaque aliment, en fait. Est-ce que 1 plus 1 pourrait faire plus que 2 sur le plan nutritionnel? Le texte ne l'affirme pas, mais il ouvre cette porte avec ses exemples. C'est une invitation à voir l'alimentation un peu comme un système d'interaction, quoi.
Bien vu. Bon, alors après cette mise en contexte, il est temps d'examiner un peu plus en détail ce que contiennent ces extraits. Et il y a un point qui m'a particulièrement interpellé concernant l'avocat, son rôle d'amplificateur pour d'autres nutriments.
Ah oui, ça c'est sans doute l'un des points les plus étonnants rapportés par le texte, j'avoue. Il affirme qu'ajouter seulement un quart d'avocat à une salade, disons avec de la laitue, des épinards, des carottes, ça pourrait multiplier par 15 l'absorption des bêta-carotènes qui sont présents dans ces légumes. Le bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A, bien sûr.
Multiplié par 15 ? C'est juste énorme pour un ajout aussi simple. Ça change complètement la vision qu'on peut avoir d'une simple salade, en fait. Et le texte dit que ce n'est pas le seul nutriment concerné.
Non, en effet, un effet similaire est décrit pour le lycopène. C'est cet antioxydant qu'on trouve beaucoup dans les tomates. L'avocat faciliterait aussi son assimilation. Ce qui suggère que la présence de bonnes graisses, comme celle de l'avocat, est assez cruciale pour tirer le meilleur parti de certains nutriments liposolubles des légumes.
C'est fascinant, cette idée qu'un aliment peut en activer un autre, ou du moins optimiser ses bienfaits. Et pour le lycopène des tomates, le texte apporte une nuance importante, justement en lien avec le cancer de la prostate.
Tout à fait. Le document précise que, pour maximiser la protection potentielle contre le cancer de la prostate, c'est la tomate cuite, comme dans une sauce tomate par exemple, qui serait la plus efficace. Donc, si on suit la logique présentée, La cuisson, elle rend le lycopène plus disponible et l'ajout d'avocat permettrait ensuite de mieux absorber ce lycopène optimisé. Une sorte de cascade d'efforts.
C'est une belle illustration de la complexité et de l'intelligence potentielle des associations alimentaires, finalement. Au-delà de cet effet un peu catalyseur, qu'est-ce que le texte nous apprend sur la composition même de l'avocat qui pourrait expliquer ses autres bienfaits ?
Alors, le texte le décrit comme un fruit particulièrement dense sur le plan nutritionnel. Il est présenté comme riche en phytonutriments, ces composés végétaux bioactifs, en antioxydants qui luttent contre le stress oxydatif, et puis en fibres aussi qui sont essentielles pour la digestion et la régulation de la glycémie.
D'accord. Et comment ces composants agiraient concrètement d'après la source ?
Le texte suggère une action un peu concertée. Ces composés aideraient à diminuer l'inflammation systémique, qui est un facteur impliqué dans beaucoup de maladies chroniques. Et en plus, ils aideraient à réduire l'absorption du cholestérol alimentaire et des triglycérides dans l'intestin. C'est donc une double action potentielle, anti-inflammatoire et régulatrice des lipides sanguins. Ça fait directement écho aux bénéfices cardiovasculaires mentionnés plus tôt.
D'accord. Et il y a aussi une mention spécifique pour la santé des yeux. Ça, c'est peut-être moins connu pour l'avocat. Le texte cite la lutéine et la zéaxanthine.
Exactement. Ce sont deux caroténoïdes un peu spécifiques. Contrairement aux bêta-carotènes, ils ne se transforment pas en vitamine A, mais ils ont une affinité particulière pour la rétine de l'œil. Le texte explique qu'ils s'accumulent dans la macula, une zone centrale de la rétine, et là, ils agiraient comme un filtre naturel contre la lumière bleue, qui peut être dommageable à long terme, et aussi comme des antioxydants locaux.
Une sorte de protection oculaire intégrée, si on veut. C'est un autre atout dans le jeu de l'avocat, tel que présenté ici. Si on récapitule, pour l'avocat, booster d'absorption, anti-inflammatoire, régulateur de lipides, protecteur oculaire. Le tableau est assez complet, en fait. Et le texte insiste aussi beaucoup sur son profil lipidique, en le qualifiant de « bonne graisse ».
Oui, ça c'est un point central dans l'argumentaire du texte. L'avocat, et d'ailleurs les noix aussi sont mentionnées, est positionné comme une alternative saine et bénéfique aux graisses animales saturées. Graisses que le texte qualifie de « dangereuses pour la santé ». Donc, cette substitution est présentée comme une stratégie clé.
Et en quoi cette substitution serait si bénéfique, d'après les éléments fournis ?
Alors, le texte ne détaille pas tous les mécanismes. Mais il s'inscrit clairement dans la lignée des recommandations nutritionnelles actuelles. Celles qui préconisent de remplacer les graisses saturées, qu'on trouve surtout dans les viandes grasses, la charcuterie, le beurre, certains fromages, par des graisses insaturées. Mono-insaturées, comme dans l'avocat et l'huile d'olive, ou polyinsaturées, comme dans les noix, les poissons gras. Ces dernières sont associées à une meilleure santé cardiovasculaire, notamment via leur effet sur le cholestérol sanguin. Baisse du mauvais LDL, maintien ou hausse du bon HDL. L'avocat est donc présenté ici comme un champion de cette catégorie de bonne graisse.
C'est une perspective intéressante. Voir l'avocat pas juste comme un aliment avec ses propres vertus, mais aussi comme un outil de remplacement stratégique dans notre alimentation. Mais attention, comme pour beaucoup de bonnes choses, il y a une précaution à prendre. Le texte le souligne bien.
Absolument, et ça c'est une information cruciale pour une partie de la population. Le texte met en garde les personnes qui suivent un traitement anticoagulant. Plus précisément, ceux qui utilisent des médicaments de la classe des antivitamines K, les AVK. La raison est simple, l'avocat est une source non négligeable de vitamine K.
D'accord. Et quel est le lien ? Pourquoi cette vitamine K pose problème avec ces médicaments ?
La vitamine K, elle joue un rôle essentiel dans la coagulation du sang. Et les médicaments AVK, ils agissent justement en contrant l'action de cette vitamine K pour fluidifier le sang et éviter les caillots. Donc si une personne sous AVK se met à consommer soudainement beaucoup plus d'avocat, et donc de vitamine K, qu'habituellement, ça peut potentiellement réduire l'efficacité de son traitement, et donc augmenter le risque de thrombose. Et inversement, une baisse soudaine de l'apport en vitamine K pourrait augmenter le risque d'hémorragie. L'enjeu, c'est donc de maintenir un apport en vitamine K assez stable.
Donc, ce n'est pas une interdiction absolue de manger de l'avocat pour ces personnes, si je comprends bien. C'est plutôt une recommandation de le faire avec modération et surtout régularité, sans faire de grands écarts. Et puis, surtout, d'en parler avec son médecin ou son pharmacien pour ajuster le traitement si besoin. C'est bien ça ?
C'est exactement ça. C'est la nuance importante à comprendre, telle qu'elle transparaît dans cette mise en garde. La communication avec le professionnel de santé est vraiment primordiale dans ce cas précis.
C'est noté. Un détail pratique, mais qui peut être vital. Bon, maintenant qu'on a bien exploré les infos du texte sur l'avocat, revenons un peu sur le soja. Juste pour être sûr qu'on a bien saisi les points clés le concernant, tels que présentés dans la source.
Volontiers. Alors, le texte positionne le soja de manière assez spécifique. Il est présenté comme « l'aliment de choix », ce sont les termes utilisés, pour la réduction des risques de cancer du sein. C'est une affirmation assez forte quand même, hein ?
L'aliment de choix. Oui, c'est direct. Et pour la ménopause ?
Alors, le texte mentionne son rôle potentiel pour atténuer certains symptômes climatériques. Il cite explicitement les bouffées de chaleur, qui peuvent être très pénibles, et aussi le maintien de la densité osseuse, un enjeu majeur pour prévenir l'ostéoporose après la ménopause. Ces effets sont souvent attribués aux isoflavones du soja, ces fameux phytoestrogènes, même si le texte ne rentre pas dans ce détail biochimique ici.
D'accord. Donc, un profil très orienté santé féminine pour ces deux aspects, mais il y a aussi ce chiffre spectaculaire sur le cancer de la prostate qu'on a évoqué au tout début.
Oui, il faut y revenir parce que le texte le met vraiment en exergue. Cette fameuse étude de 1998 qui suggère que boire du lait de soja régulièrement pourrait réduire le risque de cancer de la prostate de près de 70%. Même si, bon, une seule étude, surtout datant de 1998, ça ne constitue pas une preuve définitive, le chiffre est suffisamment frappant pour que l'auteur choisisse de le mettre en avant. Ça positionne le soja, selon cette source en tout cas, comme ayant aussi un intérêt potentiel majeur pour la santé masculine.
C'est vrai que c'est un spectre d'action assez large qui est dessiné pour le soja, dans ce document, hein. Cancer du sein, ménopause et cancer de la prostate. On comprend mieux pourquoi elle est souvent en cœur de débat, parfois passionné sur la nutrition.
Effectivement. Le soja, c'est un aliment complexe et les informations présentées ici reflètent une vision particulière de ses bénéfices potentiels, basée sur les références que l'auteur a choisies.
Bien. Alors, si on devait maintenant distiller un peu l'essence de ce que ces extraits nous ont appris, quels seraient les points vraiment saillants à retenir ?
Je dirais qu'il y a plusieurs messages clés qui ressortent de cette analyse du texte. Premièrement, le potentiel attribué au soja. Avec un accent mis sur la santé féminine, donc cancer du sein, symptômes de la ménopause, mais aussi cette donnée très forte concernant la prévention du cancer de la prostate chez l'homme. Ce fameux chiffre de 70% de réduction de risque lié à l'aide soja, tiré de l'étude de 1998.
D'accord. Ensuite, l'avocat, qui est dépeint comme une sorte de champion polyvalent, on pourrait dire, lui aussi est crédité d'une action préventive sur le cancer de la prostate, avec le chiffre de 60% de réduction de risque cité de l'étude de 2012, mais ses atouts s'étendraient à la santé cardiovasculaire et à la prévention du diabète.
Absolument. Et il ne faut surtout pas oublier ce qui rend l'avocat particulièrement unique selon ce texte, sa capacité assez impressionnante à booster l'absorption d'autres nutriments. Les bêta-carotènes, le lycopène. Et puis, il faut ajouter sa richesse propre en composés protecteurs, phytonutriments, antioxydants, fibres, son rôle potentiel pour la santé oculaire via la lutéine et la zéaxanthine, et son statut de bonne graisse végétale, présenté comme un substitut avantageux aux graisses saturées.
Sans oublier non plus cette idée intrigante de synergie suggérée par l'auteur. Combiner soja et avocat. Le texte ne va pas plus loin que l'exemple culinaire, mais ça ouvre une perspective intéressante sur les interactions alimentaires et, bien sûr, le rappel indispensable de la prudence pour les personnes sous anticoagulants de type AVK à cause de la vitamine K de l'avocat.
Voilà, c'est une excellente synthèse des informations clés qu'on a pu extraire de ce document spécifique de Jean-Philippe de Toledo. Ça donne une image assez précise des vertus qu'il attribue à ces deux aliments, en tout cas.
Tout à fait. Et cette exploration, eh bien, elle soulève une dernière pensée, une réflexion qui va peut-être un peu au-delà des faits bruts présentés, mais qui en est directement inspirée.
Ah oui, je vous écoute.
Le texte met brillamment en lumière comment un geste aussi simple qu'ajouter un quart d'avocat dans une salade peut, d'après les données présentées, démultiplier l'absorption de nutriments vitaux. C'est assez stupéfiant quand on y pense. Ça pourrait nous amener à nous interroger combien d'autres combinaisons alimentaires simples, quotidiennes, basées sur les propriétés intrinsèques des aliments, comme celles décrites ici pour le soja et l'avocat, combien de ces combinaisons pourraient silencieusement optimiser notre bien-être ou au contraire l'entraver sans qu'on en ait forcément conscience.
C'est une excellente question. Ça ouvre sur le vaste champ de la synergie alimentaire, des interactions entre nutriments et la matrice alimentaire. Le texte, en se focalisant sur l'avocat comme « booster », nous rappelle que la valeur d'un aliment, ce n'est pas seulement sa composition propre. c'est aussi sa capacité à interagir avec les autres composantes du repas. Penser combinaison plutôt que juste aliments isolés, ça pourrait être une clé pour une nutrition plus efficace. C'est une piste de réflexion très pertinente, effectivement, soulevée par l'analyse de ce texte.
Ou alors, autre piste, en considérant la forte recommandation du texte de remplacer les graisses saturées par les bonnes graisses de l'avocat et des noix, on pourrait se demander comment une approche plus consciente, plus diversifiée de nos sources de lipides, en intégrant peut-être d'autres huiles végétales, des graines, d'autres oléagineux, comment tout ça, collectivement, pourrait influencer les bénéfices préventifs évoqués dans ces extraits, notamment sur le plan cardiovasculaire et peut-être même au-delà. Le texte nous invite finalement à repenser la qualité et l'équilibre des graisses dans notre assiette.
Absolument. Ce sont des pistes de réflexion qui prolongent tout à fait naturellement les informations fournies par la source. Ça invite à une approche plus holistique, plus réfléchie de notre alimentation quotidienne, en s'inspirant justement des mécanismes spécifiques mis en lumière pour le soja et l'avocat dans ce document.